Alors, nous avions donc choisi comme thème pour ce colloque Paris-Rome, trajectoire de deux capitales culturelles. Donc, un thème à la fois comparatif, culturel, géographique, avec des regards croisés. Un thème qui s'était un petit peu imposé à nous, puisque il s'agissait d'organiser le colloque à Paris. Qui s'était un petit peu imposé très naturellement à nous, parce qu'il nous paraissait permettre d'aborder toute une série de questions que nous nous posions et que je crois les responsables de ces grandes villes se posent, à savoir quels sont les enjeux et les défis auxquels sont confrontées deux grandes capitales culturelles traditionnelles, je dirais, dans le monde contemporain. Quels sont les traits distinctifs, la façon dont chacune de ces capitales, avec son génie propre, son histoire propre, sa situation par rapport, son positionnement par rapport à l'ensemble de son propre territoire, comment donc elles réagissent chacune à sa manière face à ce défi, quelle empreinte les héritages historiques et politiques, notamment depuis le XIXe siècle, parce que nous avions assigné une limite chronologique à cette enquête qui couvrait la période, disons, depuis l'unité italienne, et Gilles parlera plus précisément de l'aspect historique du colloque, de l'époque donc de l'unification italienne jusqu'à nos jours, soit un siècle et demi. Quelle empreinte donc les héritages historiques et politiques avaient laissé sur l'image de la ville politique? De la ville capitale, et puis quelles étaient les politiques publiques qui permettaient de conserver ce statut dans le monde globalisé, c'est-à-dire dans un monde terriblement et très rapidement évolutif, où les paradigmes et les pratiques culturelles sont refaçonnées de fond en comble. Voilà quelles étaient un peu les interrogations à la base de notre recherche et de notre colloque. Bon, et tout ça, bien entendu, s'intégrant dans ce qu'est le cadre intellectuel des activités d'Italique, c'est-à-dire, disons, quelque chose, Italique n'est pas, à proprement parler, une académie scientifique et ni une université. Nous sommes d'abord un espace de débat public, un espace de débat public et de confrontation d'idées sur des thématiques communes où l'on croise des regards d'acteurs italiens et d'acteurs français. Donc croisement des regards, mais croisement aussi des disciplines, ce que reflète très bien la liste des auteurs de ce colloque, puisque vous y trouverez des historiens, des universitaires, des sociologues, des historiens de l'art, mais aussi des personnes qui sont engagées dans l'action administrative quotidienne, des diplomates, des administrateurs publics. Donc toute une série à la fois de disciplines et de pratiques professionnelles mêlées qui correspondent aux soucis que nous avons toujours eus à Italique, de ne pas être des théoriciens raisonnant dans l'abstraction, mais de mettre en relation, en tension permanente, la réflexion et la pratique. Comme vous avez pu le constater d'ailleurs à l'occasion du colloque qui vient de s'achever. Voilà. Alors, bon. Je vais faire un certain nombre d'observations sur ce que sont, disons, les résultats auxquels nous avons abouti, en tout cas quelques-unes des grandes lignes directrices qui ont un peu structuré cette manifestation et qui sont donc consignées ici dans les actes. Et je ferai 6 observations rapides avant de donner la parole à Gilles, à Marc et à Rachne pour compléter. D'abord, ce que nous avons constaté, de façon très unanime, c'est que Rome et Paris sont des capitales culturelles de plein exercice. Qu'est-ce que ça veut dire, des capitales de plein exercice? Ça veut dire que elle dispose de toutes les fonctions et de tous les attributs qui permettent de donner un sens à cette notion de capital culturel. À la fois des foyers de création artistique, pôles d'attraction, capables d'attirer toutes sortes d'artistes et de créateurs, attraction mais aussi source de rayonnement vers l'extérieur, c'est-à-dire de diffusion, instance de consécration pour de nombreux créateurs, et aussi un marché, puisque la culture est aussi une marchandise, pour prendre à rebours une formule bien connue, qui se négocie sur un marché. Donc là-dessus, quelles qu'aient pu être d'ailleurs au fil des temps les variations cycliques du poids respectif des deux capitales, nous avons constaté que tous ces éléments sont réunis et qu'à ces deux éléments s'ajoutent entre un effet d'aimantation réciproque entre les deux capitales qui fait que, je ne dis pas de toute éternité, mais au moins depuis la Renaissance, la circulation entre les artistes, entre les rives de la Seine et les rives du Tibre, n'ont jamais cessé, avec des effets divers. Et tout ça a été parfaitement documenté, aussi bien en ce qui concerne les artistes plasticiens, les peintres, que le cinéma, ou bien que la littérature, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc ça, c'est un premier point. Parmi ces attributs, il n'y a pas que des attributs matériels, mais il y a aussi, dans ce qui permet de définir une capitale culturelle, toute une série d'attributs de type symbolique, c'est-à-dire comment une capitale réussit à construire son image en incarnant un symbole fort qui façonne son identité de capitale. Et là, il n'est pas douteux que Rome et Paris ont su construire et véhiculer des images qui sont à la fois d'un grand raffinement, d'une grande sophistication, et qui donc parlent aux élites, mais qui en même temps jouent sur le spectaculaire et l'événementiel, et qui peuvent ainsi attirer des publics beaucoup plus larges. L'une et l'autre ont su le faire, et ont su le faire historiquement, on pourrait là aussi en dire beaucoup, mais surtout, elles l'ont fait dans des registres très très différents. Puisque quand on considère l'histoire, on voit bien que l'image de Rome est liée au souvenir à la fois de l'Antiquité et de la chrétienté, de l'Empire romain et du rayonnement de la papauté, donc une double universalité antique et catholique, alors que Paris incarne de façon assez contrastée ce que pourrait être une forme de culture laïque, républicaine, voire même révolutionnaire. Donc deux images qui font que les deux villes ont toujours vécu leur primauté culturelle sur des plans symboliques distincts, ce qui explique sans doute qu'elles ne se soient jamais vraiment perçues comme rivales par rapport à ce qu'ont pu être les rivalités entre d'autres capitales. Je pense par exemple Londres et Paris au XIXe, où il y avait effectivement... Donc ça, c'est l'aspect symbolique. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'il y a une autre différence forte en ce que Rome et Paris sont adossés à des histoires nationales qui sont complètement différentes. Hein. Paris est la capitale d'un État-nation très anciennement constitué et fortement centralisé. Donc elle a absorbé très tôt dans l'histoire cette notion de capitale. Rome, évidemment, a absorbé aussi très tôt dans l'histoire, et même encore plus tôt, cette notion de capitale, mais avec une sorte d'éclipse qui est liée au fait que l'unité italienne ne s'est réalisée que tardivement et que, en fait, elle a retrouvé tardivement ce rôle de capitale d'un État unitaire il y a 150 ans. Et cela, évidemment, n'est pas sans influence sur ce qu'a été la continuité de son image. Alors, d'autant plus que cette continuité s'est interrompue, d'une certaine manière, dans le passage de la Rome papale à la Rome unitaire et monarchique, puisque l'image qui s'était construite sur le symbole et la puissance de la papauté, cette image, l'Italie unitaire, lui a tourné le dos pour chercher à construire une unité de Rome capitale qui soit fondée sur d'autres valeurs, mais je laisserai à Gilles le soin de développer ce point. Quatrième observation que je voulais faire, c'est on est parvenu au constat que l'existence d'un extraordinaire patrimoine monumental ou artistique ne suffisait pas à faire une capitale culturelle. Ce qui est l'élément déterminant, décisif, c'est la façon dont s'articule dynamiquement, dont s'articule le patrimoine et la création. C'est de cette dynamique-là, cette capacité à jouer de cette dialectique que la fonction même de capitale résulte. Et donc, une capitale culturelle, on peut dire qu'elle se reconnaît par son aptitude à gérer de façon harmonieuse et dynamique le rapport entre l'ancien, voire même l'antique, et le moderne ou le contemporain, c'est-à-dire à conjuguer des temporalités qui sont décalées dans le temps. On a dit également qu'il n'y avait pas de capitale culturelle sans politique culturelle, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement l'opinion générale qui fait la capitale, mais c'est aussi la volonté politique des dirigeants. Et de ce point de vue, c'est vrai que aussi bien Rome que Paris ont été marqués au fil de l'histoire par des politiques volontaristes de commande publique. Alors, bon, Rome, depuis, disons, Sixte Quint pour ne pas remonter plus tôt, ou Paris, avec la tradition effectivement régalienne d'embellissement de la capitale qui a été une constante des rois de France depuis le Moyen-Âge. La commande publique pouvant être d'ailleurs venir soit de l'État, soit de la ville elle-même. Et il est d'ailleurs intéressant de noter que cette grande tradition régalienne parisienne a été complètement récupérée par le modèle républicain qui a intégré tout l'héritage des rois de France. Tout ça pour dire que une capitale culturelle sous-entend un écosystème assez complexe dans lequel cohabitent et interagissent toute une pluralité d'acteurs, l'État et la ville, le public et le privé, les créateurs, les marchands, les institutions et les associations, et plusieurs des intervenants qui étaient précisément des administrateurs nous ont permis de toucher du doigt ce qu'est la complexité pour organiser cette nébuleuse dans le sens d'une complémentarité vertueuse et pour éviter une concurrence dispendieuse. Avec, bien entendu, la formulation d'une crainte, c'est-à-dire que la crise actuelle, la crise économique actuelle, n'est des effets restrictifs sur les politiques culturelles en matière de protection du patrimoine et de soutien à la création. Voilà. Et puis, on s'est quitté sur une sorte d'interrogation pour l'avenir. Est-ce que ce modèle de capital culturel traditionnel, tel que l'incarne Paris et Rome, est encore pertinent, est encore opérant, ou le sera encore longtemps dans l'univers globalisé, dans l'univers connecté, dans l'univers marchandisé, qui est celui qui se met en place sous nos yeux et qui provoque des bouleversements considérables en matière de création, de diffusion et de consommation de la culture. Ce qui suppose effectivement une capacité, aussi bien de Rome que de Paris, à réinventer leur propre modèle, à surmonter les difficultés critiques qu'elles connaissent, et à essayer de faire face à cette épreuve, certes avec leurs propres ressources, certes avec leur propre héritage, mais aussi en s'épaulant et en essayant de trouver une coopération qui leur permette de bâtir un avenir partagé et un imaginaire commun avec leurs héritages spécifiques. Et disant cela, je me réfère très explicitement à ce que vous disiez tout à l'heure, Bertrand Delanoë, maire de Paris, et à cette perspective très encourageante, à savoir qu'après des années où effectivement la coopération culturelle entre Rome et Paris, qui a atteint des niveaux très importants sous les municipalités Rutel, Iveltroni à Rome, puisse reprendre un cours dynamique et créatif, c'est dans l'intérêt des deux villes, évidemment. Voilà, alors après cette présentation générale, je passe la parole à Gilles pour poursuivre sur les points plus particuliers.